Messieurs, dames, bonjour. Merci Thomas de m'avoir invité à faire ce séminaire. Donc, je vais parler des effets de seuil et changement de régime dans les systèmes écologiques que Thomas a abordé tout à l'heure, les systèmes de pêche en particulier, mais ça peut se retrouver dans d'autres systèmes plus importants. Je viens d'un institut, le Beijer Institute of Ecological Economics. C'est un institut de l'Académie des sciences de Stockholm où nous avons une grande partie de notre recherche est dévouée à ce genre de phénomène. Et puis, je voudrais aussi m'excuser. Je suis française d'origine, mais ça fait 20 ans que j'habite en Suède et je travaille toujours en anglais et en suédois. Alors, j'ai eu beaucoup de travail pour traduire les termes nouveaux. Donc, excusez-moi si j'invente des choses bizarres. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, cette heure, je vais la consacrer à d'abord vous présenter ce que c'est qu'un changement de régime, comment on définit cela. Je vais parler brièvement de la gestion optimale avec des changements de régime, parce que c'est les résultats que Thomas a présentés tout à l'heure changent un petit peu quand on a des possibilités de changement de régime dans les écosystèmes. Et ensuite, je vais aborder différentes stratégies de gestion face au changement de régime. Trois stratégies, les stratégies de mitigation, de transformation et d'adaptation. Il faut dire aussi que c'est un domaine de recherche assez récent, donc le domaine n'est pas complètement étudié, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je vais vous faire une présentation de l'état de la recherche en ce moment. Alors qu'est-ce qu'un changement de régime? Et si vous avez un problème, s'il y a quelque chose de pas clair, interrompez-moi pour poser des questions, il n'y a pas de problème. Alors, un changement de régime dans un écosystème, c'est un changement substantiel et persistant des structures et des fonctions du système. C'est souvent associé à un franchissement d'une série de seuils critiques. Et les seuils critiques, ça peut être, par exemple, dans des lacs, un taux de phosphore qui dépasse un certain niveau critique ou dans l'atmosphère, un taux de CO2 qui dépasse un niveau critique. Bon, certains disent que c'est peut-être 2 degrés ou 3 degrés. On ne sait pas toujours quels sont ces seuils critiques, mais ils existent. Alors, ces changements de régime provoquent un changement radical dans la composition dynamique des espèces de l'écosystème. Ce sont des changements rapides, relativement rapide par rapport aux changements habituels. Ce sont des systèmes, on parle de systèmes dynamiques, donc ils changent tout le temps, mais là, on parle de changements très importants et très rapides à l'échelle du changement habituel du système. Et il y a des mécanismes internes de renforcement qui font que le changement est persistant, ce qui fait qu'une fois qu'on a changé, c'est difficile de retourner en arrière. Ce n'est pas forcément impossible, mais c'est souvent plus difficile. Sur les images, là, vous voyez deux exemples de changements de régime qui ont été fortement étudiés. Les changements de régime dans les coraux. Donc, il y a un changement entre les systèmes barrières de corail avec dominance de coraux qui peuvent tout à coup, assez rapidement, être envahis par les algues. Et donc, ça fait un système de corail à dominance algue. Et l'autre image montre une prairie marécageuse qui peu à peu se transforme en forêt marécageuse quand elle est envahie de buissons. Vous pouvez trouver plein d'exemples comme ça sur le site internet de la database des changements de régime. Vous avez l'adresse là, si ça vous intéresse. Un autre exemple, les barrières de corail ont été extrêmement étudiées et elles peuvent se transformer dans des différents régimes, donc pas seulement la transformation corail-algue que j'avais mis dans l'image d'avant, mais il peut y avoir les coraux qui blanchissent dû au changement de température que Thomas a évoqué, donc c'est pas seulement la calcification, si la température dépasse, je crois que c'est 28 ou 29 degrés, dans les zones tropiques, les coraux blanchissent et après, si ça dure trop longtemps, ils meurent. L'invasion par les algues géantes, les macro-algues, et il peut y avoir aussi une dominance oursin qui est un autre régime des barrières de coraux. Alors, comment on comprend les changements de régime? C'est un phénomène qu'on trouve dans les systèmes qu'on appelle les complexes et adaptifs. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ces systèmes complexes et adaptifs, il y a beaucoup de variables qui interagissent les unes avec les autres, ce qui crée plusieurs bassins d'attraction. différentes. Alors, et c'est ce qui crée ces différents régimes. Donc, il peut y avoir, ici, sur la figure, vous avez un schéma où il y a... Le régime courant est ici, qui est symbolisé par cette bassine avec une boule dedans qui représente l'état du système. Et on part d'un régime et pas d'un équilibre, parce qu'en général, ce sont des états qui changent tout le temps, il y a toujours des petites variations. Et donc, tant que la boule reste dans ce bassin, on dit que le système reste dans ce régime. S'il passe un seuil, qui est ce niveau-là qu'on appelle tipping point en anglais, mais qui est un niveau de seuil, on se retrouve dans un autre régime qui est celui-là, qui a des caractéristiques très différentes. Les causes d'un changement de régime sont en général de deux espèces, et souvent on les rencontre en même temps. Donc ce qui peut se passer, c'est que soit il y a un grand choc extérieur ponctuel qui arrive et qui dérange le régime complètement. Par exemple, donc c'est ce qui est symbolisé par la figure d'en haut là. Il y a un choc qui pousse l'état du système dans un autre régime. C'est ce qui s'est passé par exemple dans la fin des années 90 dans les barrières de corail en Amérique centrale, où il y a eu de fortes tempêtes qui ont augmenté l'afflux de nutriments dans les eaux et qui ont créé un changement de régime pour transformer les barrières de corail à dominance d'algues. Un autre mécanisme, c'est qui est représenté par la figure d'en dessous, où il y a des changements continuels, pas forcément très importants, mais qui s'accumulent dans l'écosystème. Par exemple, si on parle des mêmes barrières de coraux, on peut, s'il y a beaucoup de petits agriculteurs sur les côtes, près de là où il y a ces coraux, qui utilisent beaucoup d'engrais, ça peut faire une augmentation de phosphore, et d'éléments nutritifs dans les eaux qui, petit à petit, ne font aucun effet, mais s'accumulent et puis finissent par, quand un effet de seuil est atteint, à saturer le système qui se transforme. Et si, pour ceux qui s'il y a quelques-uns dans l'audience qui parlent en termes mathématiques, dans ce cas-là, on parle d'une bifurcation du système. Les changements des paramètres sont tels que le système a une topographie complètement différente. Alors pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Pourquoi je parle de ce genre de changement de régime? C'est parce que c'est des phénomènes qui ont des impacts très importants sur les services écosystémiques produits par ces écosystèmes. Et donc, au bout, cela a des impacts sur les sociétés qui utilisent les services écosystémiques produits dans ces écosystèmes. Ce sont des phénomènes non linéaires, ce qui fait que c'est difficile à prévoir et c'est difficile à inverser. Et l'augmentation des activités humaines sur la planète, on parle de l'anthropocène, de la dominance humaine sur la planète, a tendance à augmenter la fréquence de ces changements de régime. Et en plus, il y a des évidences expérimentales qui montrent que le fait qu'il y ait des changements de régime dans les écosystèmes, ça peut influencer la façon dont les usagers de ces écosystèmes se comportent vis-à-vis des ressources naturelles. Donc ici, voici un exemple de trois régimes différents d'un écosystème qui, tous les trois, produisent des services écosystémiques très différents. Donc cette image est prise dans un article par John Foley et ses collègues dans Science. Alors le premier système, là vous voyez un écosystème naturel qui produit beaucoup de services écosystémiques, genre séquestration du carbone, régulation des flots d'eau et tout ça, mais pas de production agricole. En contraste, vous avez le système, si ce système a été transformé en système agricole intensif, vous avez un système qui produit beaucoup de services de production agricole, mais très peu de services écosystémiques différents, genre régulation climatique, séquestration du carbone, etc. Et là, vous avez un troisième type de régime où on peut produire un peu de tous les services, mais pas la quantité maximale. Alors le régime qui sera préféré par la société dépendra des goûts et des préférences de la société en général. Alors, durant les 20 dernières années, il y a eu pas mal de recherches sur ce genre de phénomène pour voir comment ce genre de phénomène, quel impact cela devrait avoir sur les théories économiques de la gestion des ressources naturelles. Alors, il y a eu des avancées sur, par exemple, la gestion optimale, je vais en parler un petit peu. Il y a aussi des avancées sur les propriétés communes, les ressources en propriété commune qui peuvent subir des changements de régime et quel effet cela a sur elles. Vous pouvez voir des articles par Carl-Johan Mele et ses co-auteurs, et j'ai aussi écrit avec une collègue là-dessus. Et il y a aussi plus récemment des articles qui parlent des instruments de politique économique et comment on peut les adapter en vue de ces phénomènes. Et je vais parler également de ça un peu plus dans mon séminaire. Alors, la gestion optimale avec un changement de régime. J'ai pris l'exemple d'un lac parce que cette littérature s'est fait surtout sur le changement de régime qui a été très étudié, c'est le changement de régime dans les lacs. Au début, on parlait des lacs shallow lake, les lacs peu profonds, mais en fait, ce sont des dynamiques qu'on peut trouver dans tous les genres de lacs, même s'ils sont profonds. Donc maintenant, on parle plutôt de les changements de la littérature sur les lacs. Alors, ici, c'est un modèle qui vient de... Il y a plusieurs articles qui ont été publiés à peu près en même temps sur ce problème, et j'ai choisi de vous montrer le modèle par Brock and Starrett de 2003, qui utilise ce modèle-là. Alors, le problème qu'ils veulent étudier, c'est un problème d'exploitation optimale d'un lac, où on veut se servir du lac peut-être pour de la pêche ou des choses comme ça, mais on veut aussi s'en servir pour pouvoir décharger des éléments nutritifs, par exemple, dus à l'agriculture au bord du lac. Et donc, l'objectif de ceux qui vont planifier le lac, c'est de maximiser le revenu qu'on peut recevoir du lac, qui vient de l'utilité associée au rejet d'éléments nutritifs dans le lac, parce que bon, ça augmente les bénéfices de l'agriculture et tout ça, moins le coût de ces éléments, le coût de la pollution dans ce lac. Et la condition qu'il faut respecter pour pouvoir... il faut respecter la condition de dynamique naturelle dans le lac qui est montrée par cette équation. Donc, c'est le changement du stock de phosphore dans les lacs qui est une fonction de l'afflux de phosphore, par exemple, de l'agriculture, moins l'écoulement naturel, plus le dégagement ou le stockage du phosphore dans les sédiments. Et cette fonction-là peut être soit très, très faible si le lac est dans un état clair, soit elle peut être très élevée si le lac est dans un état trouble. Et c'est cette fonction en général qui fait qu'on peut avoir un changement de régime entre un état clair du lac ou un état de lac avec des eaux troubles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de problème là qu'on a ici? Ce qui se passe, c'est que la solution n'est pas... vous avez vu la solution de Thomas sur la pêche, il y avait une solution unique, optimale. Ce qui se passe, c'est quand on a un système comme ça où le lac peut changer de régime, il peut y avoir plusieurs solutions optimales. Il y a trois types de situations. Il y a une situation, et cela varie selon les caractéristiques du lac, les paramètres de données. Donc, il peut y avoir une situation où la solution optimale, c'est de garder un lac avec une eau claire qui est plus intéressant pour la pêche. Il y a une autre solution où la solution optimale, c'est de décider que, bon, bah, ma foi, je ne vais pas trop m'occuper à pêcher dans ce lac, je pêcherai ailleurs, mais je vais favoriser l'agriculture autour du lac, parce que pour des raisons, si les terres agricoles sont très fertiles, ou c'est plus rentable de faire ça. Et il y a aussi des situations où les deux équilibres peuvent coexister en même temps. Et c'est la situation qui est montrée dans ce diagramme phase. On dit ça, un diagramme phase ? Deux phases, merci. qui montre ici le stock de phosphore dans l'écosystème, et ici c'est l'afflux du phosphore des environs. Et ces courbes-là montrent les états d'équilibre du phosphore dans le lac et du contrôle, ce qui est l'afflux du phosphore venant des environs et infligé par les humains. Donc les équilibres sont ici, on voit un équilibre là, un là et un là, et c'est ces deux équilibres extrêmes là, qui sont stables. Là c'est un équilibre avec peu de phosphore et qui donne un lac clair qu'on voit là. Là c'est un équilibre avec beaucoup de phosphore qui donne un lac plus trouble où il y a beaucoup de végétation en surface, c'est plus difficile de pêcher. Et l'équilibre ici au milieu est instable, mais il montre aussi cette zone ici, c'est une zone où il y a un point d'indifférence. Donc dans cette zone-là, il y aura une situation où l'on est indifférent entre le lac aux eaux claires ou le lac aux eaux troubles. Et donc ce qui veut dire que dans ces systèmes-là, ce qui s'est passé dans le passé, a de l'importance. Dans la plupart des systèmes où on regarde, ce qui s'est passé dans le passé n'a pas forcément d'importance parce qu'on peut facilement retrouver le niveau optimal. Dans ces systèmes-là, cela a de l'importance parce que si on part du système d'un point d'origine de ce côté-ci, de ce point d'indifférence, si le point d'indifférence est par ici et qu'on parle du système de ce côté-ci, de ce point d'indifférence, la situation optimale, ce sera d'aller dans ce régime-là, un régime de lac clair. Si par contre, au départ, on est dans une situation où le lac est déjà très trouble, eh bien la situation optimale, ce sera d'aller dans le régime très trouble. Bon, et cela va de soi, parce que si on a déjà un lac assez trouble, il faudra faire beaucoup d'efforts pour pouvoir retourner vers un lac clair, et ça, il arrive une situation où ça n'est plus rentable de le faire, et vice-versa. Si on a un lac clair, ça vaut le coup de rester dans le lac clair, et ça devient moins rentable d'essayer de miser sur un lac aux eaux troubles. Donc ça, c'est encore une image pour illustrer la dépendance historique. Là, c'est pour montrer le point bleu, là, c'est le seuil d'indifférence, donc c'est le point où on est indifférent entre les deux régimes. Et là, la boule rouge, c'est le point de départ qui est à droite du seuil d'indifférence. Et là, donc, la solution optimale, ce sera d'aller vers le régime B, qui est ici un régime eutrophié avec avec des eaux troubles. Et si vous partez à gauche, la solution optimale, ce sera d'aller vers le régime B. Et vous voyez que près du régime, du seuil, la situation est très sensible. Il faut très, très peu de variations pour avoir un état à la fin, en long terme qui est très différent. Ici, c'est une figure pour essayer d'illustrer les différents types de seuils qu'on trouve quand on commence à étudier les problèmes de changement de régime. Alors, le seuil dont on parle en premier, c'est le seuil écologique. C'est le seuil entre deux régimes écosystémiques. C'est, par exemple, la limite de phosphore qui sera nécessaire pour définir si le lac il est clair ou pas. Trouble. Et ce seuil diffère typiquement du seuil d'indifférence de on l'appelle le Skiba parce que ça vient d'un article de Skiba de 1978 qui avait formé ce concept. Ce seuil de l'écosystème est généralement différent du seuil d'indifférence. Donc ce seuil d'indifférence, il dépend aussi des goûts et des préférences de la société. Et puis, si jusqu'ici, je n'ai parlé que des situations où tout est déterministe. J'ai pas évoqué l'incertitude. Si on a beaucoup d'incertitudes et de processus incertains, il y a aussi probablement incertitude sur la location du seuil écosystémique. Mais ce qu'on peut avoir, c'est autour de la location de ce seuil un espèce de... comment on dit span, span. Non, span. Un écart, voilà, merci. Un écart dans lequel il y a une zone d'incertitude du seuil. Et au bord de cet écart, là, on a un seuil où le risque devient positif. Donc, si on est à gauche de ce seuil, il n'y a pas de risque d'être de changer de régime. Si on vient à droite de ce seuil, on a un risque de changer de régime, d'aller de régime A au régime B. Vous voyez la différence entre les différents seuils. C'est assez important de comprendre la différence conceptuelle entre ces trois seuils, parce que souvent on parle des effets de seuil, mais c'est assez... cela veut dire des choses très différentes. Alors, quelles sont les stratégies de gestion qui existent face au changement de régime ? Ce qui a été pour l'instant assez étudié, mais où il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on va former un impôt quand il y a un changement de régime. Et Meller et al. En 2003 avaient déjà étudié ce problème. Ils avaient étudié le lac qu'on a vu juste auparavant, mais assumé qu'il était en propriété commune et les riverains du lac gèrent une pollution au phosphore. Et donc ils avaient essayé de calculer la taxe optimale pour pouvoir, si les riverains ne pouvaient pas se mettre d'accord les uns avec les autres pour gérer le lac de façon optimale, quel impôt, quelle taxe devrions-nous mettre sur le phosphore pour pouvoir obtenir la gestion optimale. Donc la solution dépend de l'ombre coût social et l'ombre coût privé du phosphore, selon l'équation qui est ici. Et comme vous voyez là, la taxe optimale va varier avec le temps, ce qui est assez difficile à mettre en place politiquement. Donc, Mel et ses papas des assez dessous ont aussi regardé quelle serait une taxe constante optimale. Et donc, c'est une taxe qui est donc fonction du nombre de communautés autour du lac et de la quantité optimale de phosphore ajouté. Mais ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est que cette taxe constante, même si à l'équilibre long terme, donne le même effet que la taxe qui varie temporellement ici, elle ne donnera pas le même effet sur le chemin pour aller en transition pour aller vers l'équilibre long terme, ce qui est beaucoup de temps, quoi, ce qui fait qu'il y a probablement beaucoup de différences entre ces deux politiques de gestion. Ça, c'est un autre article par Kosioris, Plexousakis, Xepapadeas et Dessous, qui est arrivé un peu plus tard, où ils ont étudié, ces systèmes-là sont assez compliqués, donc c'est très difficile de trouver des solutions analytiques, voire impossible. Donc là, ils ont simulé différents types de taxes pour voir quel effet elles avaient ou comment elles arrivaient à s'approcher de la gestion optimale. Donc ici, vous voyez, sur cette figure-là, vous voyez la courbe... la courbe pleine, ça montre la pollution quand le système n'est pas régulé, c'est toujours un lac. Et la courbe ici, c'est la pollution quand le système est régulé de façon optimale. Et entre les deux, ces différentes courbes montrent différents types de taxes qui ne sont pas optimales, mais qui essaient de s'approcher de la taxe optimale. Et là, vous avez le même résultat, mais en chiffres. Et donc, vous voyez qu'avec une taxe, il faudrait déjà des taxes cubiques ou quadratiques. Enfin, ça fait des formules de taxes très compliquées qui sont difficiles à implémenter en politique. Et par contre, la taxe fixe, qui est moins efficace, elle est beaucoup moins efficace, mais elle est peut-être plus facile à implémenter. Donc, il faut encore étudier pas mal de ces problèmes pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut se contenter d'une taxe fixe ou pas. Alors, donc la réponse à la question, c'est devons-nous revisiter les théories économiques sur les taxes ? Moi, je dirais oui, si la possibilité d'un changement de régime altère les résultats des théories économiques traditionnelles. Ce n'est pas forcément le cas si jamais il y a une possibilité de changement de régime, mais la taxe est mise en place, fait en sorte qu'on reste dans le même régime, il n'y a pas de risque de changer de régime. Là, on peut garder les résultats normaux, enfin les résultats habituels, mais dès qu'il y a un risque de changement de régime, là, les résultats traditionnels ne font plus vraiment fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour naviguer la possibilité des changements de régime, en sachant que les taxes qu'on peut mettre en place doivent être très compliquées, ne sont pas toujours faisables? Il y a beaucoup d'autres choses qu'on puisse faire aussi. Alors, le but de ce genre de politique, c'est d'abord d'être conscient qu'il peut y avoir différents régimes et d'avoir des autorités qui pèsent le pour et le contre des différents régimes. D'abord, il faut prendre une décision, dans quel régime voudrions-nous être, et ensuite utiliser la politique économique qui est adaptée pour pouvoir essayer d'arriver au régime où on veut être, soit rester dans celui où on était, ce qui est dans ce cas des stratégies de mitigation, si on veut maintenir le régime qui existe en ce moment. Par exemple, si on a un lac limpide et qu'on veut maintenir un lac limpide, il faudra utiliser des stratégies de mitigation. Si on a un régime que l'on sait va changer et dont on ne peut pas éviter le changement, il faudra mettre en place des stratégies d'adaptation pour pouvoir adapter la société à ce nouveau régime. Et on peut aussi mettre en place des stratégies de transformation pour carrément provoquer un changement de régime. Par exemple, si on veut restaurer un lac qui a vu un changement de régime dans le passé. Alors, je vais parler de ces trois différentes stratégies en ordre. Les stratégies de mitigation, il s'agit en fait d'essayer d'augmenter la résilience du système, la capacité du système à se maintenir dans le bassin d'attraction qui nous intéresse. Donc, par exemple, ici, vous vous souvenez de la figure qu'on avait où les activités humaines, par exemple, de pollution régulière, avaient tendance à éroder l'un des bassins qui était le bassin désirable. Donc, la façon d'essayer de mitiger ce genre de changement de régime, c'est de faire une économie politique dans le sens inverse qui va augmenter la résilience de ce régime qui est désirable. Et il peut s'agir de politiques habituelles, de taxes, de quotas. Tant qu'on est dans le régime désirable qui est ici, qu'on veut rester là et qu'on y est déjà, on peut encore utiliser les taxes normales ou les quotas normales, les politiques économiques habituelles, si l'on fait bien attention que ces politiques ne nous envoient pas dans le mauvais régime. Mais il faut aussi penser qu'il y a toujours un dilemme, c'est que pour éviter un changement de régime, il faut agir avec précaution. Si on veut éviter une situation déplorable, de se retrouver dans un régime catastrophique qu'on ne voulait vraiment pas être. Mais d'un autre côté, la précaution, c'est aussi, ça a des coûts dans le sens où on perd des opportunités de gains. Par exemple, si on veut éviter un lac aux eaux troubles, cela veut dire qu'il faudra limiter les activités agricoles ou aux alentours, ou bien limiter la pêche dans le lac. Enfin, il faudra faire des mesures qui seront néfastes pour le bien-être des individus qui font ces activités habituelles. Donc, il y a un article de 2011 par Poleski, Dessous et Wagner qui ont étudié ce problème. Quand est-ce que les changements de régime justifient-ils un comportement de précaution? Et ils ont montré que cela dépend de deux choses. D'une chose, en quoi se caractérise le changement de régime? S'agit-il d'un collapse du stock, comme le collapse du stock de morue dont Thomas parlait tout à l'heure, ou s'agit-il d'un changement de dynamique du système, c'est-à-dire par exemple que la morue est toujours là, mais elle se reproduit moins bien. Et le deuxième critère, c'est selon où les activités humaines peuvent influencer le risque de changement de régime ou pas. Donc c'est là dont on parle de probabilité endogène de changement, c'est si les activités humaines peuvent influencer le changement de régime. Par exemple, si je pêche, je vais influencer le risque de, de, de créer un collapse du stock ou de changer le changement de régime du stock de morue. Par rapport à une probabilité exogène de changement, par exemple, s'il y a un météore qui va tomber, je peux pas, ça va peut-être changer le risque de changement de régime du stock de morue, mais ce n'est pas quelque chose qu'on puisse contrôler en tant qu'être humain, du moins pas à grande échelle. Et donc, Polaski et al. Ont donc montré que selon ces quatre différentes catégories, il y a différentes réponses. Donc, et il n'y a qu'une seule catégorie où ils ne sont pas capables de répondre d'une façon claire, oui ou non, faut-il agir de façon avec précaution. C'est dans cette catégorie-là. Si un collapse du stock et une probabilité endogène de changement, cela dépendra de la valeur des paramètres et des conditions. Donc il faudra faire des calculs plus spécifiques pour pouvoir dire si on veut agir de façon avec précaution ou exploiter plus le système. Si il y a un changement de dynamique du système, simplement, et pas un collapse du stock, là, c'est optimal d'agir avec précaution, c'est-à-dire, dans le cas d'un stock de poissons, de pêcher moins que ce qui aurait été optimal selon le modèle que Thomas avait montré tout à l'heure. Si, dans le cas de probabilité exogène de changement, là c'est complètement différent. S'il y a un risque de collapse du stock et il y a une probabilité exogène de changement de régime, là ben, on fait la fête, on va tout pêcher et puis on mange les poissons tant qu'il y en a, et puis voilà. Parce que si le risque qu'il disparaisse est important et qu'on ne peut rien y faire, autant en profiter. Et si le changement de régime mène à un changement de dynamique du système et que la probabilité de changement est exogène, ça n'a aucun effet, donc on continue à exploiter de façon optimale selon les mêmes règles que Thomas avait présentées dans sa présentation. Voilà. Alors, ce genre de résultat, on pourrait l'adapter aussi à des problèmes de changement de régime très importants. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des limites planétaires. Qui a entendu ? Vous n'avez pas entendu parler des limites planétaires ? En 2009, il y a eu un groupe très important très divers de chercheurs scientifiques qui ont proposé le concept de limites planétaires. C'est un concept qui présente l'existence de seuils pour différents processus planétaires et ils ont désigné ces seuils pour délimiter un espace dans lequel la société humaine s'est développée historiquement, et ce sont des conditions que l'on pense devraient demeurer pour que l'on puisse continuer à se développer socialement sur la planète. Alors, une de ces limites planétaires, c'est la plus connue, c'est par rapport au climat. Donc c'est un niveau de d'échauffement de la planète en dessous de 2 degrés, ou je crois que c'est même 1,5 qu'ils ont dit dans cet article-là. Mais il y a aussi d'autres limites planétaires qu'ils essaient de définir en ce qui concerne le nombre de produits chimiques dans l'atmosphère et dans les eaux, l'acidification des océans, dont on parlait tout à l'heure, l'ozone, etc. Donc, ils ont défini 9 processus, et il y a eu, en janvier 2015, ils sont sortis avec une nouvelle version où ils ont amélioré les prédictions, ils ont changé un peu les noms des limites. Et donc, la question que l'on se pose quand on vient, comme Thomas et moi, du côté économique de la chose, c'est: est-ce que ce serait optimal de décider des limites de sécurité qui respectent ces seuils ? Donc, devrions-nous décider que non, nous ne rejetterons pas plus de CO2 dans l'atmosphère que les limites qui sont nécessaires pour garder les 2 degrés ? Ou devons-nous décider que on limitera l'acidification des océans à un certain seuil, etc. Est-ce que c'est la chose optimale à faire ? Alors, si on regarde la littérature économique, on verra que la réponse sera oui, cela dépend de plusieurs choses. Mais dans la situation qu'on envisage, je pense que la réponse est assez claire. Alors, cela dépend de la structure du risque, et d'une. Donc, parlons-nous d'un risque ou d'incertitude. Donc, quand je parle de risque, je parle d'un risque où on connaît les probabilités de différentes éventualités, ce qui n'est pas vraiment le cas quand on parle des limites planétaires, parce qu'on parle plutôt de zones d'incertitude, on ne sait pas très bien de ce qui peut se passer, mais les chercheurs scientifiques ont identifié des risques de seuil qui auront des implications très importantes sur le développement de la planète. Une autre question qui se montre importante, c'est comment augmente le risque d'avoir un changement de régime une fois qu'on passe le seuil risque. Donc, vous vous souvenez le seuil risque que j'avais montré entre les trois seuils différents? Il y avait le seuil écosystémique, il y avait le seuil d'indifférence et il y a le seuil risque. Alors, une fois qu'on passe ce seuil risque, une fois qu'on rentre dans une zone de risque, comment augmente le risque? Si le risque augmente abruptement, c'est là augmente la... l'optimalité d'une solution où on sera très précautionneux. Et aussi, ce qui a beaucoup d'impact, c'est quel est l'effet des activités humaines sur le risque d'un changement de régime. Est-ce que nos activités humaines ont beaucoup d'effets? Oui. Si oui, donc il faudrait plutôt être précautionneux. Le degré de précaution dépend aussi des conséquences d'un changement de régime. Alors, si on parle d'une catastrophe, dont on parle d'un changement abrupt ou qui transformerait complètement la vie sur la Terre, dans ces cas-là, effectivement, il faut être précautionneux. Par contre, si on parle d'une réorganisation du système, cela dépend un peu de la manière dont cette réorganisation touchera la société humaine. Ça, si les effets sur le bien-être humain sont limités, il y aura moins de raisons d'être précautionneux que si les effets sur le bien-être humain sont importants. Ici, c'est pour un peu essayer de... C'est le même genre de raisonnement, mais avec une figure pour essayer de montrer un peu comment ça se passe. Donc, ces concepts de limites planétaires, ça définit une zone, ici, de ce côté-là, qui est la zone de l'Holocène, qui est la zone dans laquelle on a vu le développement des grandes civilisations de nos jours. Et donc, le seuil de ces limites planétaires, ce serait cette droite rouge, là, pleine, qui est de location incertaine. Et donc, il y a un écart autour de cette courbe qui nous montre une zone d'incertitude. Et donc, si au début de la zone d'incertitude, le risque augmente de façon abrupte, comme c'est montré ici, ça, dans ces cas-là, il faudrait mettre un standard minimum de sécurité au niveau de ce risque. Et c'est ce risque, c'est ce niveau-là que définit les zones de limite planétaire de ce concept. Alors... Donc voilà. Encore un aspect qui est important d'étudier en ce qui concerne les changements de régime, c'est comment les usagers des ressources naturelles réagissent à ce genre de processus. Alors, comme c'est assez difficile, il n'y a pas encore beaucoup d'observations, ce que nous avons fait, moi et deux collègues, nous avons fait des expériences en laboratoire avec on a mis des groupes de 3 ou 4 personnes dans une pièce leur a fait jouer un jeu où ils exploitaient une ressource naturelle qui se reproduisait dynamiquement pour savoir ce qui se passe si ces usagers de ressources naturelles se retrouvent face à une ressource qui peut avoir un changement de régime. Alors, nous avons fait ces expériences avec des étudiants en Suède, à Stockholm, et nous avons également fait la même expérience avec des pêcheurs en Thaïlande. Les deux expériences ont eu à peu près les mêmes effets. Et nous allons, au mois de janvier, faire une expérience similaire avec des pêcheurs en Colombie. Voilà, donc ce qu'on avait fait faire à ces étudiants, c'est ils étaient divisés en plusieurs groupes. Alors, il y avait des groupes qui avaient ils recevaient une figure comme ça qui montre le renouvellement d'un stock de ressources naturelles. Donc, c'est le même genre de figure que Thomas avait montré dans sa présentation. Là, sauf qu'elle est inversée. Donc, ici, c'est la quantité de stock. Et ici, c'est la reproduction. En hauteur, c'est la reproduction du stock. Donc, il y a des groupes qui ont une reproduction de stock très concave, un peu genre à la façon traditionnelle que Thomas a présenté. Et puis, il y avait un autre groupe qui avait un renouvellement du stock qui était tel que, bon, si le stock était abondant, il se renouvelle de façon exactement pareille à celle-là. Mais si le stock diminue trop, le renouvellement du stock devient difficile. Et ça se montre avec cette zone-là où le renouvellement du stock est très bas en dessous d'un certain seuil. Et un troisième traitement d'expérience, c'est où on avait le renouvellement du stock est le même pour les niveaux de stock élevés, mais on met un quota. Donc au-dessous d'un stock de 20, il y a interdiction de pêcher, par exemple. C'est l'équivalent d'un quota. Et donc ce qui s'est passé quand on a comparé ces trois traitements, c'est que, d'une, quand on compare l'utilisation des ressources par les usagers entre le traitement sans risque de changement de régime et le traitement avec risque de changement de régime, c'est qu'il se passe que les usagers gèrent le système qui a un risque de changement de régime beaucoup mieux que le système qui n'a pas de risque de changement de régime. Et c'est un résultat très positif, je trouve, parce qu'on parle beaucoup de résultats négatifs, mais si les gens sont informés de la dynamique et qu'ils ont la possibilité, je dirais ça, de façon commune, bon, c'était des petits groupes, hein, s'il y a des grands groupes, c'est peut-être plus difficile, mais des petits groupes de 3-4 personnes, ils savent résoudre le problème de façon presque optimale. Et pareil, même si on compare avec un quota, il se trouvait que les groupes qui géraient la ressource sans quota gérer la ressource mieux que les groupes avec le quota. Donc, il faudra qu'on fasse plus de recherches pour voir ce qui est derrière ce résultat, mais c'est un résultat très intéressant, je trouve. Voilà, donc là, j'en ai fini avec les stratégies de mitigation, et je vais passer assez rapidement aux stratégies de transformation et stratégies d'adaptation. Donc, stratégie de transformation, il y a un article très intéressant de Heijdra et Heinen en 2013, qui parle d'une politique de... Bon, j'ai traduit directement de l'anglais, de la dinde froide. Je trouve que l'image est assez intéressante. Ce qui se passe, c'est qu'il regarde une situation où, là, on veut provoquer un changement de régime. Donc, on est dans un régime néfaste qui ne nous intéresse pas et on veut provoquer un changement de régime. Que faire? Ce qu'il montre, c'est qu'il faut mettre en place une mesure temporelle qui est très draconienne et très extrême. Donc, il faut faire le plus gros choc nécessaire pour la plus courte période possible, pour transformer le système dans le régime où l'on veut être. Et ensuite, une fois qu'on a provoqué le changement de régime, il faut mettre en place un impôt traditionnel, une taxe traditionnelle, qui est toutefois assez élevée pour que l'on maintienne le système dans le régime désiré. Et ils montrent aussi, ils ont étudié différents systèmes pour voir comment cela fonctionnait. Ils montrent que cette méthode fonctionne dans tous les systèmes économiques étudiés, mais il peut avoir un effet secondaire sur le capital qui peut, selon la nature du système, soit faciliter, soit obstruer la réforme. Donc il s'agit, comme toujours dans ces problèmes-là, il n'y a pas de solution universelle. Il faut regarder le problème et essayer de trouver une solution adaptée au problème. Les stratégies d'adaptation, à ma connaissance, il n'y a que cet article qui parle de stratégies de transformation au niveau économique. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, là. On a du travail, Thomas et moi. Les stratégies d'adaptation, alors là, il s'agit de... Plutôt, vous vous souvenez qu'on parlait des stratégies de mitigation, il s'agit d'augmenter la résilience du système au changement. Ici, il s'agit plutôt d'augmenter la résistance du système de gestion au changement. Donc, mettre en place un système de gestion qui est adapté à des changements extrêmes. Alors, comment on peut faire ça? Il y a pas mal de recherches, mais pas trop de recherches en économie, à ce que je sache. Mais il s'agit de mesures, soit mettre en place un système de détection précoce. Par exemple, après le tsunami, on a mis en place des systèmes de détection des tsunamis qui peuvent donner qui peuvent prévenir à l'avance d'un changement de régime pour donner un peu assez de temps à une réaction, soit de mitigation, soit d'adaptation, selon le risque. Une autre stratégie, c'est d'augmenter la connexion entre les institutions pour augmenter les chances d'avoir une réponse appropriée. Dans notre société est extrêmement segmentée. Même si on va à l'université, tout est divisé en disciplines. Alors, si les mathématiques, on sait les mathématiques. Si on sait l'économie, on sait l'économie. Si on sait la biologie, on sait la biologie. Mais ça commence à aller mieux, mais on a très peu tendance à se parler les uns les autres, qui fait qu'on n'a qu'une solution partielle au problème, parce que ça, ces problèmes, c'est des problèmes qui touchent beaucoup de domaines disciplinaires, et donc, pour pouvoir trouver des solutions appropriées, il faut travailler plusieurs groupes ensemble, plusieurs institutions ensemble, pour pouvoir trouver une bonne solution. On peut aussi mettre en place un système légitime de redistribution des ressources. Le plus gros problème dans ces changements de régime, c'est les redistributions de ressources chez les usagers qu'ils créent. Parce que s'il y a un stock de pêche de morue qui disparaît du jour au lendemain, ça crée des pêcheurs qui sont en crise. Alors, s'il y a par exemple, il y a un exemple sur la situation de deux villages en Groenland qui ont été touchés par un changement de régime, la disparition du code de stock de morue. Alors, un village avait basé toute sa pêche sur le stock de morue. La transformation a été dramatique. Ils ont perdu, le village a pratiquement disparu, les gens ont quitté le village, ils ont beaucoup de chômage, enfin. L'autre village, ils avaient une pêche plus diversifiée. Ils pêchaient la morue, mais pas seulement, ils pêchaient d'autres poissons, ils pêchaient du crabe aussi. Et eux, ils ont vu une évolution positive parce que, comme ils pêchaient déjà le crabe, les stocks de crabe ont augmenté. Et bien, ça a été une transformation très favorable à eux. Et dans ces cas-là, il s'agit... Bon, le changement de régime a eu lieu, mais la société s'est adaptée de façon positive au changement. Il y a aussi, on parle beaucoup de gestion adaptative pour faire face à ce genre de problème. Donc il s'agit d'utiliser les opportunités d'apprendre plus sur le système pour mieux comprendre et répondre et s'adapter au changement. Donc ce qu'on fait par exemple, c'est étudier beaucoup de systèmes qui ont des changements de régime pour voir quels sont les mécanismes de ces changements de régime pour apprendre sur d'autres régimes. Parfois, c'est possible d'apprendre sur d'autres systèmes, mais ce n'est pas toujours possible, parce que si c'est un système unique avec des effets sur la société très importants, par exemple, si on parle de changement de régime au niveau planétaire, ça devient plus contestable de faire une gestion adaptative et d'expérimenter à l'échelle planétaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est regarder plutôt quel est le coût d'une erreur d'expérimentation. Est-ce que le changement était réversible? Est-ce que c'est à une grande échelle? Est-ce qu'il y a des possibilités de remplacement du système si jamais on a fait une erreur d'expérimentation avec un changement de régime? Donc, en conclusion de ce séminaire, je vous ai présenter un petit peu le concept de changement de régime, qui sont des phénomènes de plus en plus communs, donc je voudrais qu'on attire votre attention dessus. Je vous ai parlé aussi de la gestion optimale avec des changements de régime qui diffèrent des méthodes traditionnelles de gestion que Thomas a présentées plus tôt dans sa leçon. Et je vous ai présenté aussi un petit pot-pourri de différentes stratégies de mitigation, de transformation et d'adaptation pour faire face à ces changements de régime. Et il y a encore besoin de beaucoup de recherches là-dessus, mais je voudrais vous remercier de votre attention.